Accent d'Europe, Catherine Roland.
Коли не вгадав, можна просто замовити Uber. Відкрити додаток. Оберіть, куди їхати. І Uber завжди знайде авто поблизу. Ціна доступна. Оплатіть карткою або готівкою. І ви вже готові до свята. Uber. Завжди поруч.
Bonjour à tous. Depuis la fin de l'URSS, tous les systèmes publics pêchent en Ukraine par manque d'investissement et de volonté politique. Cela concerne autant les canalisations que l'électricité et que, bien sûr, les transports. À Kiev, la ville est paralysée régulièrement par les embouteillages. Il n'y a que 3 lignes de métro et la plupart des usagers doivent utiliser des marchotki, des petits bus jaunes très inconfortables. Le géant américain Uber, lui, a flairé le filon. La société de taxi vient de lancer Uber Shuttle, un service de minibus, le premier dans une ville européenne. Et c'est le reportage de Sébastien Colbert.
À la montée dans le minibus, le chauffeur vérifie que la commande est validée sur smartphone.
Sébastien,
c'est un minibus d'une vingtaine de places, propre, climatisé, sécurisé. Le service existe depuis la mi-mai. Victoria Krasnova l'a tout de suite adopté.
Pour moi, c'est un vrai bonheur. Je commande à n'importe quel moment et grâce à cette ligne directe, je n'ai plus besoin de faire de changement entre le bus et le métro.
Kiev est la troisième ville au monde et la première en Europe à utiliser le service d'Uber Shuttle. L'usager commande en ligne sur son smartphone, le prix et l'itinéraire sont visibles et la durée d'attente est calculée en temps réel. À la mi-mai, le maire Vitali Klitschko, ancien champion mondial de boxe, expliquait avec enthousiasme le fonctionnement d'Uber Shuttle.
Ce n'est pas un transport public, c'est un taxi, un grand taxi. C'est moins cher que les taxis ordinaires et c'est un service qui comble un manque. Il est légalement enregistré, au contraire de nombreux chauffeurs qui opèrent sans permis, sans payer d'impôts. C'est un projet pilote et nous verrons comment il va se développer.
Une course coûte entre 15 et 30 grivnas, soit entre 50 centimes et 1 euro. C'est 5 fois moins cher qu'un taxi normal, mais c'est aussi 2 fois plus cher qu'un trajet de métro, de tramway ou de bus ordinaire, tous au tarif unique de 26 centimes d'euros. Seulement voilà, à Kiev, le réseau de transport public est saturé et très peu pratique. Victoria Krasnova l'a utilisé pendant des années.
Oh, c'était terrible! Les transports sont bondés, surtout le bus, il n'y a juste pas assez de place. La situation était tellement difficile avec les transports habituels que j'avais signé plusieurs pétitions pour changer ça. Rien n'a changé à Kiev, ni dans de nombreuses villes d'Ukraine, depuis des années. Et les équipements sont devenus obsolètes, en particulier les marchoutki, ces minibus jaunes privés qui sillonnent les rues avec vacarme.
Pour arrêter une marchoutka, il faut d'abord se repérer entre tous les signes et numéros qui sont accrochés au pare-brise. Il y a des milliers de bus sans horaire précis. On l'arrête par un signe de la main sur le bord de la route. Les marches sont très hautes, les vieux moteurs au diesel ne sentent pas la rose. À l'intérieur, il y a peu de places assises et le couloir est généralement bondé. Le paiement s'effectue en faisant remonter quelques billets au chauffeur d'un passager à l'autre. Les marchoutki sont incontournables à Kiev et dans la plupart des villes post-soviétiques, mais il n'en a pas toujours été comme cela. Le philosophe Volodymyr Yermolenko se rappelle de leur apparition.
Les marchoutki, c'était le début des années 90, et donc les bus, les trolleybus, les tramways, pratiquement ne marchaient pas parce que l'État n'avait pas de l'argent pour les subventionner, mais aussi les citoyens n'avaient pas de l'argent pour payer.
Dans le chaos des années 90, les transports publics ont alors été remplacés par des systèmes privés et anarchiques.
Les marchoutki, c'est un symbole de ce capitalisme naissant en Ukraine. Et à cette époque-là, marchoutki, c'était des bus beaucoup plus petits, mais plus chers. Là, maintenant, bien sûr, on peut dire que c'est beaucoup plus obsolète parce que la société ukrainienne a développé beaucoup plus fort.
Paradoxalement, la mise en place de Uber Shuttle est une étape bienvenue de ce changement, en particulier parce que les marchoutki sont vieillissantes, tombent en panne régulièrement et deviennent dangereuses. Les chauffeurs sont souvent assez brutaux dans leur conduite et les accidents, parfois mortels, sont nombreux. Dans le minibus Uber, la jeune Karina profite pleinement de son voyage.
L'air conditionné fonctionne, il y a plein de places assises, chaque siège est équipé d'une ceinture de sécurité, c'est un progrès énorme.
Alors Karina n'exprime aucune nostalgie pour le système des marchoutki qui domine le transport urbain depuis 25 ans.
Cela ne serait pas un mal si elle disparaissait. Si le système Uber se développe, s'il y a suffisamment de bus et d'itinéraires pour desservir toute la ville, je pense que les gens comprendront d'eux-mêmes qu'il vaut mieux voyager confortablement et en sécurité, quitte à payer un peu plus cher.
C'est l'un des axes de la stratégie du maire Vitali Klitschko.
Ma mission en tant que maire, c'est d'attirer toutes sortes de nouvelles technologies à Kiev. L'arrivée d'Uber, il y a 3 ans, a été un grand succès qui profite à la capitale.
Au contraire de l'Europe de l'Ouest, où l'ubérisation des taxis suscite de nombreuses craintes, l'arrivée d'Uber sur le marché ukrainien a offert des garanties et un salaire supérieur pour les chauffeurs de taxi, comparé aux compagnies préexistantes. Le temps aidant, une classe moyenne a émergé, demandeuse de confort. Ces dernières années, les offres de transport se sont donc multipliées. Par exemple, la compagnie allemande de bus low-cost Flixbus vient de commencer à opérer en Ukraine. Pour des prix modiques, elle offre des conditions de voyage bien meilleures que les autocars existants. Pour autant, le remplacement des marchandises n'est pas pour demain. Il n'y a que quelques lignes opérationnelles et peu de bus. Edouard est un jeune représentant de la société Uber.
Nous sommes en phase de test, ce qui veut dire que l'attente peut aller de 30 minutes à 1 heure. En phase opérationnelle, l'attente sera de 15 minutes seulement.
C'est aussi à la municipalité de créer les conditions d'une amélioration. Vitali Klitschko a beau promettre des transformations imminentes et l'achat de nouveaux bus et tramways, il est très critiqué pour ses lacunes dans l'aménagement de la ville. Uber a par exemple renoncé à lancer un service de vélo électrique tant que les grandes voies urbaines ne seront pas adaptées aux trajets en vélo.
We're all going somewhere. We're all working towards something.
En Turquie, au contraire, Uber est à la peine. L'entreprise s'est installée sur le marché en juin 2014 et elle affronte depuis cette date une fronde des chauffeurs de taxi soutenus par les autorités, à tel point que le mois dernier, l'application a dû réduire considérablement ses activités dans le pays. Et c'est Anand Lauer qui nous appelle d'Istanbul.
Les 5 premières années de la société Uber en Turquie ont été une longue et parfois violente course d'obstacles. Sa décision annoncée le 31 mai de mettre fin à son service de minivan Uber XL, qui faisait travailler plus de 20 000 chauffeurs, illustre à elle seule les pressions et le flou juridique qui compliquent les activités de l'entreprise américaine sur le marché turc. Un marché très porteur puisque plus de 4 millions de personnes ont téléchargé l'application. Fin septembre 2018, Uber avait pourtant annoncé en grande pompe que les clients de son service XL, la seule présence visible d'Uber dans les rues de Turquie, allaient pouvoir bénéficier de factures électroniques. La nouvelle avait déclenché une énième polémique, car qui dit facture dit reconnaissance officielle et donc existence légale. Or, depuis des années, les autorités turques répètent haut et fort que les chauffeurs de VTC Uber travaillent frauduleusement. La question Uber est close pour la République de Turquie, disait encore le 24 mai le président Recep Tayyip Erdogan. Comme dans beaucoup de pays du monde, le service de véhicules de transport se heurte à la résistance des taxis, détenteurs d'un monopole légal. À Istanbul, par exemple, le nombre de taxis est fixé par la loi et n'a pas changé depuis des années. Les plaques des voitures jaunes se revendent à prix d'or et la plupart des chauffeurs, qui pâtissent par ailleurs d'une mauvaise réputation auprès de la clientèle, honnissent cette application qui vient perturber leurs affaires. À plusieurs reprises, la dispute a pris un tour violent, des chauffeurs de taxis s'en prenant physiquement à leurs concurrents d'Uber. Dans son message sur l'arrêt du service XL, Uber se dit engagé à maintenir ses activités en Turquie. Mais quelles activités? Eh bien, c'est là toute l'ironie. Lorsqu'il se connecte sur l'application et commande un véhicule, le client turc voit arriver un taxi. Rien qu'à Istanbul, plus de 4000 chauffeurs travaillent depuis peu avec Uber, qui prélève une commission de 5% sur chaque course. Le système provoque bien sûr la colère des associations de taxis. Faute d'avoir réussi à trouver un terrain d'entente avec elles, Uber entreprend désormais de les diviser de l'intérieur.
We now resume our regularly scheduled program.
La une de Courrier International, eh bien, c'est avec Sébastien Hervieux aujourd'hui. Bonjour Sébastien.
Bonjour Catherine.
Alors, l'hebdomadaire nous emmène d'abord au Royaume-Uni pour suivre la course à la succession de Theresa May. Pour les bookmakers, le grand favori pour remplacer la première ministre, c'est Boris Johnson. Il est connu pour ses gaffes à répétition, mais aujourd'hui, Sébastien, il ne fait plus rire.
En effet, Catherine, le profil de Boris Johnson a de quoi inquiéter. C'est ce que raconte en tout cas un article de Foreign Policy que nous publions. Mais en même temps, juge le magazine américain, le Parti conservateur britannique a cruellement besoin de son expérience et de son énergie. Pour lui, je le cite, l'énergie de Boris Johnson, avec son sens du spectacle, eh bien, c'est la source de sa popularité, il faut le rappeler. Avec 32% d'opinions favorables, l'ex-maire de Londres et leader victorieux des pro-Brexit est aujourd'hui le responsable politique le plus populaire du Royaume-Uni. Et à l'heure où le parti s'effondre, c'est tout ce que recherchent les conservateurs.
Alors en même temps, hein, Sébastien, le magazine n'est pas tendre avec Boris Johnson.
Ah oui, pour Foreign Policy, sa popularité semble inversement proportionnelle à ses réussites professionnelles. Il dénonce un bilan particulièrement maigre après 20 ans aux affaires. Je le cite, sa carrière n'est fondamentalement rien de plus qu'une escroquerie. Il prend l'exemple de son passage au ministère des Affaires étrangères de 2016 à 2018. Il n'a guère fait que semer la pagaille, il n'a guère donné l'impression d'être l'homme qui pourrait un jour sortir le pays de la crise. Pour Foreign Policy, c'est clair, Boris Johnson ne semble pas à la hauteur pour reconstruire le parti et tenir enfin la promesse du Brexit.
Alors, toute autre direction désormais, à l'Albanie où la rue gronde et le pouvoir tremble.
Oui, Catherine, depuis des mois, le Premier ministre Edi Rama, issu du Parti Socialiste, est dans le collimateur de l'opposition. Ce sont les étudiants qui avaient lancé le mouvement à la fin de l'année dernière en organisant les plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Ils dénonçaient entre autres l'augmentation des droits de scolarité, parmi d'autres mesures néolibérales, comme nous le raconte l'hebdomadaire croate Novosti. Puis les ouvriers sont descendus dans la rue et enfin aujourd'hui c'est au tour des partis d'opposition. Edi Rama est accusé d'être corrompu, on lui reproche aussi l'absence de réforme. Mais l'opposition n'arrive pas à mobiliser suffisamment de monde pour faire tomber le Premier ministre.
Alors, quelles sont les raisons, Sébastien ?
En réalité, les Albanais, s'ils ne font pas confiance au pouvoir actuel, ils ne font pas confiance non plus à l'opposition. Le journal de Zagreb cite dans son article un professeur de philosophie politique de l'université de Tirana. L'opposition est capable de promettre des impôts à seulement 9% pour tout le monde et en même temps, le financement public de l'enseignement universitaire, de choses tout à fait incompatibles, résume-t-il, en ajoutant « mais les gens, cette fois-ci, ne se font plus avoir aussi facilement ». Alors en attendant que la situation économique s'améliore, les jeunes Albanais sont contraints de travailler dans des centres d'appel ou des cafés et certains entre eux décident même d'émigrer.
On va terminer à la lecture de ce numéro avec cette étonnante histoire à faire frémir hein, sur le lucratif commerce de la graisse humaine.
Ah oui Catherine, c'est The Atlantic qui nous emmène en Europe entre le 16e et le 19e siècle. À cette époque, il y avait un fort intérêt pour la graisse humaine, raconte le magazine américain, car il était généralement admis que la graisse humaine avait des vertus curatives. On la prescrivait pour soigner les foulures, les os brisés, l'arthrite. Elle était aussi utilisée comme antalgique contre la sciatique et les rhumatismes.
Non, je suis bien curieuse de savoir comment on faisait pour la récupérer, Sébastien.
Oui, j'étais très curieux aussi en lisant cet article. Alors Catherine, on avait la coutume de l'extraire sur les cadavres encore frais. Ainsi, en octobre 1601, au lendemain d'un affrontement des plus sanglants durant le siège d'Ostende aux Pays-Bas, les chirurgiens néerlandais se seraient rués sur le champ de bataille pour récolter, je cite, des sacs pleins de graisse humaine. Le but, soigner les blessures des soldats. Mais il était plus commode, explique The Atlantic, de récupérer la graisse des criminels exécutés, que l'on appelait la graisse du pauvre pêcheur. Les bourreaux de la ville de Munich avaient ainsi l'habitude de commercer avec les docteurs. Ils leur fournissaient à la livre, au poids donc, la matière tant convoitée.
Non, aujourd'hui, on n'a pas vraiment testé, mais est-ce que vous savez si c'était efficace ou pas ?
Bien, il y avait une part de vérité, puisque les tissus adipeux favorisent en effet la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la pratique était approuvée par les spécialistes de la médecine de l'époque. La plupart d'entre eux soutenaient que la graisse humaine ne présentait guère plus de qualité que les autres graisses, animales ou végétales.
Voilà un article à lire avec les autres dans le Courrier International de cette semaine. À bientôt Sébastien.
À bientôt Catherine.
Et on continue, si on peut dire, dans la veine médicale. Si on vous parle de sanatorium, vous pensez sans doute à ces établissements qui accueillaient les tuberculeux. En français, la connotation est plutôt sinistre, mais dans les pays de l'ex-URSS, le sanatorium est un établissement à mi-chemin entre la clinique et le lieu de villégiature où les clients sont à la fois patients et vacanciers. Vous avez entendu juste là un extrait d'Amour et Pigeon, une comédie soviétique très populaire, dans lequel le héros, un villageois sibérien, reçoit un bon de séjour pour aller se faire soigner au bord de la mer Noire. La fréquentation d'un sanatorium s'est en effet popularisée à l'époque soviétique et elle se perpétue depuis. Étienne Bouche a testé pour nous une journée au sanatorium dans une station thermale du Caucase.
Planté sur les hauteurs de Piatigorsk, le sanatorium Rodnik est un établissement absolument soviétique. Ses dimensions sont imposantes et ses plantes d'intérieur à tous les étages. Ses résidents viennent de tout le pays respirer l'air des montagnes du Caucase. Ce n'est pas une légende, le climat est rude en Russie, et que l'on vive dans l'Oural, le Grand Nord ou même à Moscou, un séjour au sanatorium est une parenthèse de détente bienvenue. Héritage de l'URSS, il fait aujourd'hui encore partie des avantages sociaux dans certains corps de métier. L'installation au sanatorium ne se fait pas à la légère. Dès son arrivée, le résident doit passer une visite médicale. Hache, poids, allergie, les infirmières veulent tout savoir, attrape-colle, ciseaux, agrafeuse et constitue un dossier en deux temps trois mouvements. Les instructions sont délivrées à une cadence militaire. Le résident devra s'astreindre à un programme rigoureux s'il veut quitter les lieux en pleine forme. Le personnel est formel. Pour obtenir des résultats, le séjour doit durer au minimum une semaine. Chaque matin, petit déjeuner sans sucre servi entre 8h et 8h30. Le résident doit ensuite recevoir son ordonnance du jour. Son infirmière lui prescrit les différents traitements à suivre. C'est alors le début d'un marathon au parfum soviétique. Le résident passe d'un cabinet à l'autre, d'un bain moussant à base de plantes à une séance de purification du visage. L'infirmière de garde remplit scrupuleusement le précieux livret médical tout en gardant un œil attentif sur le sablier. Au cours des tumultueuses années 90, de nombreux sanatoriums ont fermé leurs portes. Le pays est plongé dans la crise et le modèle n'est plus en phase avec son époque. Si certains établissements ont su s'adapter, l'esprit et les pratiques sont généralement restés les mêmes. Les infrastructures sont quant à elles bien souvent vétustes. Au mois de novembre, le Premier ministre Dmitri Medvedev a promulgué un plan destiné à soutenir le secteur. À Piatigorsk, les traitements se terminent aujourd'hui dans une pièce obscure aux parois de sel. 40 minutes de sieste en pyjama blanc accompagné de Joe Dassin et Marie Laforêt.
Il y a peut-être une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique.
Et avec nous, bien évidemment, notre chroniqueur musical préféré. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous donnez des nouvelles d'un tout nouveau groupe belge avec quand même un chanteur assez connu.
Oui, Fabiola, c'est le nouveau groupe de Fabrice Dautry, vétéran de la scène pop belge, croisé notamment au sein du groupe Austin Lace il y a une quinzaine d'années et qui depuis a multiplié les projets plus ou moins confidentiels avant de s'atteler à de nouvelles chansons en 2014. Mais sans toutefois savoir exactement quoi en faire. Et c'est le regard bienveillant d'un ami musicien qui va permettre aux chansons de Fabiola de trouver leur meilleure forme, celle d'une pop légère où guitare et clavier s'entendent à merveille. Dernière étape, avant leur naissance sur scène et sur disque, Fabrice Dautry recrute trois musiciens chevronnés pour faire de Fabiola un quartet paritaire, deux filles et deux garçons pour jouer les chansons de Check My Spleen, premier album traversé par la thématique de l'échec et de la résilience.
They wanna show him off, but he's never nice enough. Giving a hard time to the host. Breaking the charms, that's what he wants. Soon everybody will choke. Mother sings, but we don't know what is next in the show. One more toast to the sea. Now the past is just a dream. Mother sings, but he won't tell. Think he has hidden ghosts. Let the ghost overseas. Be sure the past is just a dream. The past is just a in the smells of the harbor, following the girl in the green shirt, walking, breathing with the trees.
My Spleen, c'est le titre du premier album de ce nouveau venu de la scène belge, Fabiola. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation. Il y avait Françoise Grelot et Jérémy Besset. Jérémy, que nous retrouvons dès lundi.